Je ne sais pas combien dans l'église sont des fans du rugby, mais si vous l'êtes, vous savez quel a été le score hier soir. Mais en écoutant les commentateurs ce matin, j'étais étonné du langage qu'ils ont employé. Il faut comprendre que l'équipe de France a gagné contre l'Australie, un grand rival. Et il y a 2 ans, ils ont pris une raclée, cette fois-ci, c'était le contraire. Donc voilà le contexte. Mais quand on parlait, les commentateurs, ils disaient si on a gagné, c'est parce qu'on était prêt à tout donner et parce qu'il y avait une bonne communion entre les joueurs. On aurait cru qu'ils parlaient d'une église. Mais c'est extraordinaire comment ils le disaient. Ils disent si on a gagné, c'est parce qu'on a tout donné. C'est pas parce que les autres n'étaient pas bons. C'est parce qu'on a tout donné et il y avait une bonne communion entre ceux qui composaient l'équipe. Je dis ça, c'est... Et si nous voulons être une équipe gagnante, c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel. Nous sommes toujours dans cette série d'études sur l'église d'Éphèse et... pour tirer des principes pour notre vie d'église. Nous avions vu en premier l'église d'Éphèse, ses débuts, le contexte, les conditions dans lesquelles elle a commencé. C'était pas idéal, mais elle est née. Et finalement, elle a même pu atteindre toute la région. La dernière fois, nous avons vu l'église d'Éphèse, ses luttes. C'était pas sans lutte, il y avait de l'opposition, il y avait contrariété, il y avait... Mais l'œuvre s'est faite. Aujourd'hui, nous voulons voir l'église d'Éphèse, sa pérennité, sa continuité, le fait qu'elle demeure. C'est pas seulement d'avoir commencé quelque chose de bien, mais que ça continue. C'est un peu l'idée qu'on a quand on a un mariage, n'est-ce pas? Oui, la fête, elle peut être organisée. Le jour du mariage, presque tout va bien. Hein. Je sais pas si j'ai entendu parler d'un mariage où tout a été bien. Hein, bon, les invités, en général, ils n'étaient pas au courant de ce qui n'a pas été. Mais après, on veut que ça dure. Et une église qui est implantée, eh bien, on veut qu'elle continue. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a terminé avec cette lecture de cette lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Et il a dit, si tu règles pas quelque chose, si tu mets pas certaines choses au point, je vais enlever le témoignage, le flambeau. Et donc, c'est pas parce qu'on a bien commencé que ça y est, on peut baisser les bras. Pas plus que dans la vie de tous les jours, parce que nous avons affaire avec des organismes vivants. Que ce soit l'individu, que ce soit une église, c'est un corps vivant. Et un corps vivant, ça s'entretient, ça se maintient, et on respecte certains principes pour que ça continue et que ça croisse. Alors j'attire votre attention sur Actes chapitre 20, et là nous avons un passage où l'apôtre Paul est de passage par la mer et il arrive à Milet et de là il fait appel aux anciens de l'église d'Éphèse. Il y a une cinquantaine de kilomètres, donc on envoie quelqu'un un jour pour leur dire de venir. Après, ça prend toute une journée pour eux de venir. Ils passent une journée ensemble et puis après Paul continue son voyage vers Jérusalem. Donc, Actes chapitre 20, et nous allons lire ces passages au fur et à mesure, mais je veux attirer votre attention sur ce verset qui se trouve au verset 35. Hein, le verset 35, la deuxième partie, l'apôtre Paul fait une citation d'une parole de Jésus-Christ. Une citation de Jésus, pas une citation des évangiles, c'est pas pris, ça se trouve pas dans les évangiles, mais c'est une parole que Jésus a donnée. Et à la fin du verset 35, il dit cette parole, les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un principe qui n'est pas dans notre société. Finalement, on vous décourage. On dit, écoute, tant que tu peux prendre, prends. Parce que demain, ça ne sera pas là. Quelqu'un d'autre aura pris. Jésus dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un, en plaisantant, disait, mais ça, c'est vrai uniquement pour la boxe. Peut-être. Il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Et vous savez, ce qui caractérise la vie de Jésus sur terre, et c'est le principe que l'apôtre Paul a appliqué, c'est donner, donner, donner. Et j'espère, et je mentionne ça, et puis on en reviendra à la fin, mais déjà pour que ça travaille dans nos pensées, vous savez, parfois on arrive à l'église et on dit, mais qu'est-ce qu'elle peut me donner ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Qu'est-ce que je vais recevoir ? Et ce n'est pas la préoccupation de l'enfant de Dieu. Peut-être pour celui qui est de l'extérieur, qui vient visiter, veut chercher, vous êtes intéressé, alors là, vous venez, vous dites qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Là, c'est tout à fait conforme. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est pas qu'est-ce que je peux recevoir, mais c'est qu'est-ce que je peux donner. Et ce qui est certain, c'est que lorsque tous donnent, personne n'est oublié. Il y en a assez pour tous. Venez au repas fraternel, tout le monde apporte et tout le monde part le ventre plein. Donnez. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Qu'est-ce que tu as amené dans ce monde ? Quand tu es né, qu'est-ce que tu as amené avec toi ? Ton intelligence ? Il n'y avait pas grand-chose. Tout ce que tu savais faire, c'est où tourner la tête pour trouver de quoi t'étais. Tout le reste, c'était acquis. Tout ce que nous avons spirituellement, tout ce que nous savons, on l'a reçu, ça a été donné. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu ? Et si tu l'as reçu, Jésus dira un peu plus loin, il dit, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. Matthieu 18. Pour pouvoir donner, comme Jésus a donné, comme Paul a donné, eh bien, il faut être motivé par, de la même manière que Jésus a été motivé. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre ? Par amour. Il n'a pas donné parce qu'il avait, il a donné parce qu'il aimait. C'est étonnant ce que peuvent donner même des gens qui n'ont pas grand-chose. C'est étonnant ce qu'ils peuvent donner. Et parfois, ils sont plus généreux que ceux qui ont. Je me rappelle, les enfants, je disais, écoute, des fois, parce qu'ils rentraient, ils n'avaient pas les 1 franc pour le tramway à l'époque. Et ils disent, si jamais tu es en panne, eh ben, tu vas demander à quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Il est plus sûr de te dépanner que quelqu'un qui a l'air qui descend d'un taxi. Vous savez, c'est pas une question d'avoir pour donner, c'est une question d'aimer pour donner. Est-ce que je suis motivé ? Et vous avez peut-être eu l'expérience d'un enfant qui vous offre un petit quelque chose. Et le geste de l'enfant qui vous donne, il vous marque plus que lorsque on vous offre autre chose. Pourquoi ? Parce que vous dites, l'enfant ici m'a donné spontanément comme ça, il est venu vers moi me donner, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment. Et finalement, même si c'était un bonbon, mais vous l'avez reçu comme si c'était un lingot d'or. Bon, vous ne l'avez pas échangé au marché, mais c'est le geste. Et vous savez, c'est donner. Mais donner, non pas de manière intéressée, ah, je vais donner ça et puis je vais recevoir plus. Mais les églises qui vous enseignent ça, c'est pas l'évangile. On appelle ça l'évangile de prospérité. Vous donnez 10 euros au Seigneur, il vous rendra 100. Ben alors tu donnes, fais ça à la banque. Bon, tu n'auras pas 100%, hein, 100 pour 10. Mais pas avec le Seigneur. Je donne parce que j'aime. Et donc, derrière, il faut, pour pouvoir donner et continuer à donner, et comme disait le frère tout à l'heure, il disait quand on donne, quand on s'est donné à Dieu, eh bien après, il n'y a plus de question, c'est tout. C'est, on donne tout. Il n'y a plus de limite. Et là, on peut être généreux parce qu'on a déjà tout donné. Il y a un engagement. Et s'il n'y a pas l'amour qui est derrière, on peut avoir toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes habitudes évangéliques, tout le bon langage évangélique, la réponse à toutes les questions, mais s'il n'y a pas l'amour, eh bien, le Seigneur dit c'est vide. Bon, 1 Corinthiens 13 nous parle et dit si, peu importe ce que tu fais, même si tu donnes ta vie, mais si tu n'as pas l'amour, c'est une clochette qui sonne et tu n'as pas plus d'effet. C'est ça qu'il dira à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Il dira, oui, je sais, j'ai vu tes œuvres, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu, tu fais plein de bonnes choses, mais tu as perdu ton premier amour. Et donc, ce principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut d'abord le croire par la foi, mais en force de le pratiquer, on devient convaincu. Nous avons l'exemple de Jésus, hein, lorsqu'il était sur terre, son ministère terrestre est caractérisé par ses déplacements sur tout le territoire. Vous imaginez quelqu'un qui a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, vous croyez qu'il a besoin de se déplacer? Les gens vont se déplacer jusqu'à lui. Il peut dire, mais moi, je suis très bien en Galilée, si vous voulez être guéri, venez me voir. Jésus est allé, il a circulé partout. Vous savez, si Jésus n'avait pas circulé sur tout le territoire, il n'aurait jamais trouvé la femme samaritaine. Vous croyez, elle ne serait jamais venue en Galilée pour demander de l'eau. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il veut donner. Et Jésus, il va jusqu'au point, non seulement est-ce qu'il est prêt à donner, mais en plus, il suggère qu'on lui demande pour qu'il puisse donner. Tellement il veut donner. Jésus voulait donner. Et il passait des journées entières. Il s'épuisait. Il était fatigué à force de donner. Vous rappelez quand la dame l'a touché au vêtement par derrière et pour être guérie. Et bien sûr, elle a été guérie. Et il dit, mais Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Ça, c'était pour une femme. Imaginez la force qui sort de lui au fur et à mesure de guérir chacun. C'est pas qu'il était affaibli, mais c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Chaque fois, il donnait. C'était pas que moi, je touche et puis t'es guéri. Non, non. Il y avait une œuvre, une puissance qui agissait. Il donnait réellement quelque chose. Il donnait la vie quand il trouvait une personne décédée. Il donnait la santé à celui qui était malade. Il donnait la pureté à celui qui était lépreux. Il donnait la vue à celui qui était aveugle. Il donnait du pain à celui qui avait faim. Il donnait et donnait. Et c'était force qui traversait pour donner. Quand vous commencez à donner, vous avez un service où vous donnez, vous êtes fatigué à la fin de la journée. Oh, mais fatigué, mais heureux. J'ai donné pour Dieu. Vous savez, on arrive dimanche matin, tous les bancs sont alignés, tout est propre et tout ça. C'est comme chez vous, hein, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui ont commencé à préparer le culte de dimanche matin, déjà vendredi, parfois samedi, ils ont commencé à préparer. Eux, ils ont commencé à apporter leur adoration quand ils sont venus avec le balai et la serpillière et l'aspirateur, le culte a commencé. Et ceux qui arrivent, vous arrivez, dernière minute, tout est allumé, le chauffage, tout est en place. Il y a quelqu'un qui a commencé à servir Dieu, à adorer le Seigneur à 9h30. C'est donné. Dans les classes, tout autour de nous, il y a de l'enseignement qui est donné. Comme l'a souligné le frère cette semaine, il a dit, c'est l'église de demain qui est là, en formation. Et ce sont nos sœurs qui sont, elles ont préparé, elles ont commencé à donner, toute la semaine, donner, pour qu'il y ait la vie. Si on ne donne pas, il n'y a rien. Et tout cela motivé par l'amour. Jésus, en s'offrant généreusement, il a apporté le soulagement à la maladie, la délivrance à l'emprise, à ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Il a donné du réconfort à ceux qui avaient perdu un être chéri. Il a donné du repos à ceux qui étaient épuisés. Ceux qui étaient accablés par la loi qu'on leur imposait. Il dit, mais c'est vous vous dites, mais Dieu, voilà ce qu'il pensait. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. La religion vous accable, mais dis-moi, mon joug est doux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le langage du ciel. Vous savez que la bourse de Jésus et des disciples, leur petite équipe là, n'est jamais trop pleine. D'abord parce qu'il n'y en avait pas grand-chose, et puis en plus, avec Judas qui faisait la trésorerie, ça n'allait pas loin. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Il n'était pas pour voir combien ils pouvaient accumuler. Jésus est né et mort aussi pauvre que quand il est né. Mais il avait donné. Et il a laissé son empreinte. Et l'empreinte est encore là et nous sommes la preuve. Parce qu'il a donné. En tant qu'agneau de Dieu, il a donné sa vie en offrande à Dieu pour l'expiation de nos péchés. En tant que bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. En tant que fils de Dieu, il a donné sa vie pour montrer combien Dieu nous aimait. Il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un don. Il l'a rendu possible. Il a donné à Dieu, Christ en mourant sur la croix, a donné à Dieu les moyens de nous offrir gratuitement la vie éternelle. Jésus est devenu l'un de nous pour pouvoir nous donner, pour pouvoir nous offrir ce qu'il avait à nous donner. C'est nous qui étions dans le besoin, mais c'est lui qui est venu vers nous. C'est vrai que dans Paris, quand il fait très froid, nous, on s'enferme dans la maison, on se met au chaud, puis chacun ses activités. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui circulent avec des fourgons et qui sont là en train de chercher des gens qui grelottent de froid pour essayer de les soulager. C'est eux qui vont vers eux. C'est pas parce qu'ils ont froid qu'ils sont sortis, c'est parce que d'autres ont froid qu'ils sont sortis. Jésus est venu vers nous, pas parce que lui était perdu, c'est parce que nous étions perdus. Il est venu vers nous, nous donner, nous apporter le soulagement, le réconfort dont nous avions besoin. Jésus, ce qui caractérise Jésus et Dieu, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dans ce chapitre 20 des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul rappelle à cette église combien il a donné. Je vous lis d'abord les versets 18 à 21. Donc Actes chapitre 20, versets 18 à 21. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, donc parlant des anciens de l'église d'Éphèse, il dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est arrivé en Asie, on ne le connaissait pas, et en fait personne ne voulait de lui. Mais il a commencé à servir. Il a commencé à donner le message qu'il avait reçu. Comment ? Il nous dit, il a servi en toute humilité. C'est pas, moi j'ai ce dont vous avez besoin, alors venez me voir. Non, en toute humilité. Avec larmes, c'est un prix. Ça, c'est pas seulement il pleurait les émotions. Non, non. C'est qu'il souffrait en donnant. Il dit avec larmes et au milieu des épreuves que les autres. Alors que lui, il était là pour donner. Il cherchait pas son bien. Il cherchait pas son enrichissement. Il ne cherchait pas sa gloire. Il ne cherchait pas son avancement. C'était leur bien. Et il dit, mais j'ai donné. J'ai servi en toute humilité. Avec larmes et au milieu des épreuves. Il dit, je n'ai rien caché, je n'ai rien retenu. Tout ce que j'avais reçu, je vous l'ai donné. Tout ce que Dieu m'a donné, je vous l'ai transmis. Je n'ai rien caché. Au contraire, j'ai enseigné et j'ai prêché. J'ai prêché publiquement, j'ai prêché dans les maisons, j'ai été partout. Paul pouvait dire. Et il dit, en plus, il dit, et j'ai prêché aux Juifs et aux Grecs. Je n'ai exclu personne. Il dit, j'ai donné. J'ai pris sur moi de m'assurer que tous avaient entendu. J'ai pris sur moi d'être sûr qu'ils pouvaient le recevoir. J'ai pris sur moi de m'assurer qu'ils recevaient tout ce que Dieu avait. Dieu a donné, Paul a donné le message qu'il avait reçu. Dans les versets 22 à 24, il dit « Maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit pas que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. » Il y a tout un comportement là. Il a dit, j'ai qu'une seule motivation, c'est d'achever la course. Dieu a préparé un trajet pour moi. Et je vais aller jusqu'au bout. Il dit, oui, on me parle de persécution, on me parle de souffrance. L'apôtre Paul dit, ça m'a jamais arrêté. C'est pas la persécution, c'est pas la difficulté, c'est même pas le risque de mourir. Il a dit, c'est pas ça qui m'arrête. Moi, ce qui me préoccupe, j'ai qu'une seule pensée, c'est de finir la course. Pourquoi ? Parce que sa course, lui, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il en avait été le bénéficiaire. Lui était en chemin. Il pensait à toute autre chose et il a pris une de ses baffes de Dieu, il est tombé par terre et là il a regardé et Jésus lui dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire ? c'est grave. Si c'est toi que je persécutais, moi je croyais servir Dieu. Et finalement, je retrouve que c'est le contraire. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit, écoute, tout ça, c'est réglé. Maintenant, je veux que tu me serves. Il dit, je te sers avec tout ce que j'ai. Il dit, j'ai qu'une seule motivation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous savez, pour donner, se donner, comme Paul s'est donné, il fallait y croire. Parce que c'est pas, si on a des doutes, c'est pas à demi-cœur qu'on arrive à faire ce que Paul a fait. Et vous savez, il y a déjà ma vie, qu'est-ce que je vais donner? Ça c'est mon temps, mes ambitions, mon orientation. Comment est-ce que je donne pleinement à Dieu de le servir là où je suis? Et puis ensuite, au sein de ma famille, surtout si j'ai une position qui me permet d'avoir de l'influence dans ma famille. Et puis la famille plus étendue, les collègues de travail, ailleurs, j'ai quelque chose à donner. Et ne pensez pas, mais moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Non, tu donnes. Jésus a dit à l'homme qui a été délivré, là, l'homme Gadara, il a dit, va et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Un témoin ne peut pas dire ce qu'il n'a pas vu. Il dit, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et ensuite, les versets 25 à 27, il dit, maintenant voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. Il a dit, je vous ai enseigné tout ce que Dieu m'a confié. Jésus avait dit, quand il a envoyé les disciples, il a dit, en Matthieu 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et pas plus, mais pas moins. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et si vous faites cela, voici, je suis avec vous. L'apôtre Paul dit, moi, je suis pur du sang de vous tous. Parce qu'il n'y a personne qui pourra venir me dire, mais toi, tu m'as jamais appris, tu m'as jamais rappelé. Il dit, moi, je suis pur du sang de vous tous. Moi, je ne sais pas si je peux dire ça. En fait, je suis sûr que je ne peux pas le dire. Il y a beaucoup d'occasions qui ont échappé. Je me souviens une fois, ça m'a travaillé pendant longtemps. Il y avait une personne marocaine qui était venue à l'église et dit je veux comprendre, je veux apprendre. C'était une période où mon calendrier était plein, il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dit, écoute, attends, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Et je prends le temps. J'avais un calendrier plein. C'était une jeune femme, 25, 26 ans par là. Eh bien, la semaine d'après, j'ai appris qu'elle a fait une crise cardiaque dans le métro. On ne pouvait pas s'y attendre. Et après, pendant un temps, j'ai dit, ce que j'avais à faire était si important que ça. C'est sûr que je ne peux pas le savoir, mais ça m'a travaillé, j'avais ça sur la conscience pendant un temps. Il dit, il y avait quelqu'un qui était là en train d'insister, je veux recevoir, je veux entendre, explique-moi. Et l'agenda a pris l'importance. C'est dur. Et l'apôtre Paul a dit, moi je suis pur du sang de vous tous. Il avait tout enseigné. Et puis au verset 34, il dit même, Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Il dit, moi j'ai travaillé et j'ai soutenu mon équipe pour ne pas être une charge. Il a donné jusque-là. Jusqu'à, on dit, mais c'est eux qui recevaient. Hein, il ne faut, faut pas museler le bœuf qui foule le grain, dit l'apôtre Paul. Hein, celui qui donne, on prend soin de lui. Il dit, moi, j'ai même pourvu à mes propres besoins pour vous donner, pour ne pas être une charge, pour qu'on ne puisse pas me dire, mais oui, mais tu as profité un peu de nous. L'apôtre Paul avait tout à fait l'esprit de Christ. Bon, il est parmi les rares êtres humains qui peuvent dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais vous savez, lorsque vous regardez dans le monde des gens qui se disent serviteurs de Dieu, hommes de Dieu et toutes ces choses, vous savez, mais il ne faut pas aller regarder combien il y a de monde qui va les voir. Parce que le match d'hier soir, il y avait du monde. Ça veut, le fait qu'il y ait du monde, ça ne veut rien dire. Il faut voir, est-ce qu'ils sont ce qui caractérise leur vie et ce qui a caractérisé la vie de Christ. Donnez. Il y a certains grands prédicateurs connus, qu'on voit à la télévision, tout ça. Je sais qu'avant, que si on les invite, avant de les inviter, il faut déjà promettre, et dire voilà, tous les frais sont couverts et il y a 10 000 euros. Hein. Sinon, on ne vient même pas. Il ne regarde même pas pour prendre un rendez-vous. Il ne regarde même pas son, s'il n'y a pas, ce n'est pas garanti. Bon, quand on s'appelle Bill Clinton, et puis alors on est payé, c'est sûr. Quand on est Sarkozy, on voyage, on se fait payer, c'est sûr. Mais les serviteurs de Dieu, non. Il dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Lorsque vous voyez que quelqu'un, il est là pour rassembler pour lui-même, riez-le. Il dit, je ne vais même pas l'écouter. Il ne représente pas Jésus-Christ. Il n'a pas l'esprit de Christ. Jésus lui-même a dit, il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Je ne veux pas citer de nom, mais je sais qu'il y a certains de ces grands prédicateurs, vous allez voir où ils habitent et tout ça, ils se débrouillent bien, hein, matériellement. Et ils circulent dans le confort. Et ils mangent le pain de ceux qui n'ont pas de quoi. Ça, il ne représente pas Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lui, a pourvu à ses propres besoins. Il dit, pour qu'on ne me ravisse pas le privilège de pouvoir dire, j'ai donné. Et donc, l'exhortation que l'apôtre Paul donne à ses anciens dans l'Église, et puis finalement à l'Église, hein, il en a à eux et c'est pour toute l'Église, c'est justement ce principe de devoir donner. Parce qu'il dit, il faut se souvenir de quelque chose. C'est au verset 28, il dit, prenez garde à vous-même, et à tout le troupeau. Pourquoi ? C'est parce que cette église, Dieu se l'est acquise au prix du sang. Il dit, n'oublie jamais le prix que Dieu a payé pour avoir ce troupeau. Ça lui a coûté le sang de son fils. Il dit donc, prenez garde à vous-même. Prenez garde au troupeau, veillez sur le troupeau. Parce que c'est précieux. On va vraiment avoir de l'imagination. Supposons que je vienne chez vous, j'ai dit, écoute, j'ai un lingot d'or, hein, il faut de l'imagination. Hein. J'ai un lingot d'or, j'ai dit, écoute, tu peux me garder ça ? Vous allez avoir peur, non, mais je ne prends pas le risque, non. On aurait tellement peur. Oui, et puis si vous le preniez, oh là, qu'est-ce que... Vous n'allez pas dormir la nuit ? Chaque petit bruit, il y a quelqu'un qui rentre. Vous savez, et ça, c'est pour un lingot d'or. Je sais pas, il y en a combien qui ont déjà vu un lingot d'or ici, à part la télé? Je sais même pas ce que c'est, je sais pas combien ça pèse, je sais pas ce que ça vaut, je suis tellement... Mais Dieu dit, tu sais ce que je vous confie, c'est un corps de personne, j'ai payé avec le sang de mon fils. Vous pouvez le garder, prendre soin. Il dit, n'oubliez pas à quel prix je l'ai acheté. Ensuite, il dit, au verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il dit, c'est pas seulement que je vous confie quelque chose de précieux, mais en plus, il y aura des loups qui vont venir pour détruire. Alors, c'est une image que Jésus avait déjà utilisée dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et au verset 15. Dans son sermon sur la montagne, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il dit, c'est pas seulement de bien mettre une clôture autour pour protéger, mais surveiller même de l'intérieur, parce qu'ils apparaissent tout d'un coup comme ça, dans le troupeau. Il dit, méfiez-vous des loups. Et vous savez, oui, les anciens doivent veiller, mais en fait, tous nous devons veiller. Je me souviens, on en parlait cette semaine avec le conseil des anciens. Je me souviens une fois, un mardi soir, j'étais là en train de faire l'étude, puis il y a deux personnes qui rentrent comme ça. Bon, on reçoit toujours bien les visiteurs, hein, vous savez, on fait bien ça. Et puis ils se sont assis, ils ne se sont pas assis ensemble, ils étaient venus ensemble, ils ne sont pas assis ensemble. Chacun s'est assis à côté de quelqu'un dans l'église. C'est bizarre. Bon, je continue, j'étais en train de faire l'étude, je continue. Et puis, dès que l'étude est terminée, on prie. Tout d'un coup, c'est les visiteurs qui se tournent vers les gens de l'église et commencent à parler. Dans notre église, c'est les gens de l'église qui se tournent vers les visiteurs. Là, c'est les visiteurs qui commencent tout d'un coup, ils entament la conversation et puis ça discute. Ouais, je commence à... Bon, ils n'ont pas discuté avec moi, mais je commence à me demander ce qui se passe. Bon, je laisse faire. Après la réunion, je demande, je dis, mais il t'a parlé de quoi ? Moi, ouais, j'ai pas trop compris, ceci, cela. Bon. Ils étaient partis. Le mardi suivant, ils viennent à trois. Même tactique. Un ici, un là, un là-bas. Je dis, cette fois-ci, je vais être prêt. Et après, j'ai à peine terminé l'étude biblique, j'ai été vers celui que j'ai vu les deux fois. Je me suis dit, ça doit être le meneur. J'ai dit, vous venez dans cette église, si vous venez pour apprendre, vous êtes bienvenu. Si vous venez pour enseigner, vous n'êtes pas bienvenu, je ne veux plus vous voir. Il dit, non. J'ai dit, écoutez, c'est à vous de juger. Moi, je vous dis comment ça se passe ici. Vous venez pour recevoir, vous êtes bienvenu. Vous venez pour apporter quelque chose, vous n'êtes pas bienvenu. Je ne les ai plus revus. Et vous savez, il faut être vigilant. Les gens pénètrent, par la suite, j'ai appris qu'ils ont fait la même chose sur d'autres églises, et finalement, ils étaient en train de construire leur église en pillant les églises. On doit être vigilant. Les loups, ça existe. Tant que les moutons existeront, les loups existeront. Et ils existent à vos frais, aux frais des moutons. Donc, veillons sur le troupeau de Dieu. Dieu dit, écoute, ils sont précieux. Il dit, puis je te dis, attention les loups. Et des fois, on ne les voit pas tout de suite. Ouvre l'œil. Et c'est à nous d'être vigilants si nous voulons préserver ce que Dieu nous a confié. Et puis, je continue dans ce passage de Actes chapitre 20. Et dit au verset 30, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. » Et puis il y aura des gens qui sont des chrétiens, qui sont au milieu de vous, mais qui commenceront à avoir des idées, ça va cuisiner des choses dans leur tête, et puis ils vont commencer à essayer d'entraîner du monde. Et ça, c'est les plus durs, parce qu'ils ont le droit d'être là. C'est des frères. Mais ils vont commencer à cuisiner des choses, et puis faire une autre cuisine qui ne correspond plus à celle que nous avons reçue, et puis on commence à embrouiller du monde, et même des disciples, les entraîner. Il dit attention. Dans Galates chapitre 2, les versets 4 et 5. Galates chapitre 2, les versets 4 et 5. Il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. C'est des gens qui venaient, là c'était des hommes sous l'influence du judaïsme, qui voulaient pénétrer les chrétiens, et disent non, mais il faut garder la loi, il faut faire ceci, cela, ils commençaient Il dit, il voulait vous enlever votre liberté que vous avez en Jésus-Christ. Il dit, non, on n'a pas cédé, on a résisté pour que vous ne perdiez pas la liberté, ce que vous avez en Jésus-Christ. Et on doit veiller, on doit veiller. Et dès qu'on commence à baisser les bras, à dire tout va bien, tout c'est bon, ça va, c'est là que ça commence. Donc, veillons. Et pour que ça soit vrai, eh bien, il faut que chacun soit vigilant, chacun se donne, chacun cherche le bien de l'Église, chacun est conscient, et dès que le moindre virus apparaît, dès qu'un cheval de Troie pénètre dans l'Église, on le reconnaît, et on réagit. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous sentez la fièvre monter dans votre corps? C'est parce que votre corps a senti qu'il y a un élément étranger qui est là et qui veut faire du tort. Et donc, tout d'un coup, ça se mobilise. Et bien que dans le corps de Jésus-Christ aussi, il faut que vous soyez vigilant. Et dès qu'un virus extérieur pénètre pour, que la fièvre monte pour traiter le problème, on soit prêt à donner. Pas à dire, c'est pas mon problème, hein, moi, il se débrouille. Ça, c'est pas quelqu'un motivé par l'amour. Hein. C'est ça, c'est l'esprit du métro parisien. Bon, je n'ai rien vu, je ne vais pas avoir de problème. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison déjà, ma journée est assez longue. Et toutes sortes de choses. Mais dans une église, non. Dans Actes chapitre 20, verset 35. Il y a une parole intéressante. C'est au début du verset. Et qui montre l'attitude que l'apôtre Paul avait. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler la parole du Seigneur. Mais se souvenir des faibles. Soutenir les faibles. Il y a un principe qui est si on s'occupe des faibles, ceux qui sont pas en position de force, si on s'intéresse à eux et on s'assure qu'on s'occupe d'eux, personne ne sera oublié. Qu'on vise seulement... lui, il a un bon salaire, là, ça serait bien pour l'Église. Ça marcherait dans l'Église. Ça, on a besoin de quelqu'un. Il fait du bâtiment. On a besoin des travaux. Et puis on cherche. Si c'est comme ça que le fonctionne l'Église, ça ira nulle part. Mais quand l'Église a ce sentiment, mais comment est-ce que je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Il n'apporte rien. Eh bien, c'est à nous de lui donner. Comme ça, il sera enrichi parmi nous. Jésus, qui avait tout, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches en lui. Les faibles, il y en a toutes sortes. C'est pas seulement celui qui est handicapé, c'est pas seulement celui qui a une mauvaise santé, celui qui n'a pas un beau boulot. Les faibles, il y en a toutes sortes. Il y a toutes sortes de choses qui nous mettent en position de faiblesse. On est étranger, on est ceci ou cela. Vous savez, tous ceux que le monde méprise, eh bien, il faut se dire, ça c'est les gens à qui on va s'intéresser. On dit, oui, mais après on aura une église, ce sera comme le SAMU social. C'est Christ. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette église. Et je sais dans quel état certains sont venus, et je sais dans quel état ils sont aujourd'hui. Et je dis gloire à Dieu. Parce que ils sont venus avec pas grand chose, et maintenant c'est des gens qui se donnent et qui se donnent. Et certainement c'est ceux qui se donnent le plus, parce qu'ils ont le plus reçu. Celui à qui le plus a été pardonné aime plus. Mais ça, c'est l'esprit qu'on veut. J'écoutais hier soir une prédication. Bon, c'était 1h du matin, mais ce frère afro-américain, c'est dans les années 50, il descend dans une église. Et on l'a invité pour prêcher, et quand il monte pour prêcher, il regarde et puis il voit, ah ben, il dit, il s'est mélangé. Bon, les années 50, c'était rare aux États-Unis, hein, dans le sud des États-Unis. C'est pas seulement que c'était rare, c'était inexistant. Alors, il a dit, j'étais étonné. Après, j'ai été voir le pasteur, j'ai dit, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, je vous raccourcis l'histoire, hein, après. Mais il a dit, on avait l'église là, et puis le pasteur, il est parti, il n'y avait pas de pasteur, et puis l'église n'avait pas les moyens de soutenir un pasteur. Alors je dis, ben moi, je suis prêt à prêcher. Il m'a dit, bon, ben, si tu prends rien, hein, tu n'as pas besoin de salaire, ben alors tu peux y aller. Il a dit, j'ai commencé à prêcher, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire ce qu'il y avait dans la Bible. Et puis j'ai trouvé le verset, il a dit, j'ai trouvé le verset qui a dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, il y a plus. Il a dit, il y avait tous un, et j'ai dit, moi, j'ai prêché ça. Ce que j'ai trouvé dans la Bible, genre j'ai prêché. Il dit, après la réunion, ils sont venus me voir, il dit, écoute, tu dis plus ça, hein. Les diacres sont venus le voir, il dit, tu dis plus comme ça, tu parles plus comme ça. Il a dit, ouais, vous êtes renvoyés. Il dit, comment tu les as renvoyés? Il dit, mais c'est pas eux qui m'ont embouché. Et il a dit, l'église est descendue, il a dit, je suis arrivé jusqu'à 4. Vous savez, des fois, pour croître, parfois il faut diminuer. Parce qu'il y a des gens qui gênent la croissance de l'Église. Il a dit, ils sont descendus jusqu'à 4. Il a dit, j'ai commencé à prêcher. Et il a dit, ils ont commencé à venir. On a reconstruit l'Église avec une autre mentalité. Alors ce pasteur, ce frère, donc après la réunion, après tout ça, il entend ça, il est encore étourdi hein, à l'époque. Et après, il rentre à la maison avec un blanc, un médecin, et qui fait 100 kilomètres. Il dit, tu fais 100 kilomètres pour venir ici? Il dit, je fais 100 kilomètres pour entendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est lorsqu'on commence à penser comme Dieu pense, et on protège la pensée de Dieu, Dieu va bénir. Les faibles, la société crée toutes sortes de faibles. Mais devant Dieu, nous sommes tous dans le besoin. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et à lui, nous ne pouvons rien apporter. Et même ce que nous apportons, ce sont des vêtements souillés. Il dit, je viens. Maintenant que nous sommes là, que nous avons reçu, l'accueil que nous avons reçu, eh bien, nous devons l'étendre généreusement. Que ce soit qu'on soit connu comme une église qui donne, et qui donne parce qu'elle aime. Et pas, et on peut pas dire, c'est parce qu'on aime le Seigneur, mais toi, bon. Non, non, il dit, si tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois, comment tu aimes celui que tu ne vois pas? Le trait caractéristique du maître sera le trait caractéristique du disciple. Si on accepte bien le fait que Dieu, Jésus, était, il a donné, ce qui caractérise sa vie, c'est le fait, sa générosité de donner. Il s'est donné au point d'être épuisé. Il était tellement fatigué que dans une barque, il s'est endormi. L'eau rentrait, la barque était prête à couler, il est encore endormi. Il faut être fatigué, hein. Parce qu'il donnait. Paul dit, j'ai donné. Paul, dans sa vie, il avait les caractéristiques de Christ. Vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 11, deuxième partie, il dit tout ce qu'il a donné. Je ne vais pas lire le passage là à cause de l'heure, mais vous pouvez voir, il a donné. Il a donné, tout, il a tous les risques. Vous pouvez voir Jean chapitre 13 où Jésus lave les pieds des disciples et puis ensuite il termine, il dit, après qu'il ait tout ramassé, tout, les disciples sont là contents, les pieds propres, et ils sont là contents d'eux. Et Jésus les regarde et dit, heureux serez-vous si vous comprenez ce que je viens de faire et vous le pratiquez. Quand vous êtes prêts à servir les autres. Vous n'êtes pas encore. Mais vous serez heureux quand vous serez prêt à servir et à vous donner pour les autres. Bon, après Pentecôte, c'était autre chose. Ces hommes étaient transformés. Je rappelle ce verset de Matthieu 18, il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mon père était agriculteur, était à l'époque où on passait du cheval de trait pour les labours, au mulet de trait pour les labours, au tracteur. Alors il avait des anciennes expressions, avec les frères on en parlait un petit peu hier soir et hier matin, des expressions anciennes de paysans de l'ancien temps. Bon, c'est le seul anglais que j'ai appris, hein, donc je les ai encore. Et mais il y a une expression qui dit, en anglais, il dit... Quand quelqu'un te donne le cheval, ne regarde pas les dents. Parce que, si, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est comme ça qu'on peut déterminer l'âge du cheval. Hein? Il dit, quelqu'un t'offre un cheval, ne va pas regarder les dents tout de suite. Il t'a offert, dit merci. Vous savez, on donne, vous recevez, il dit, mais bon, okay. Non, non, Dieu a donné, Dieu a tout donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, sans poser de questions, sans dire, mais moi, et moi, qui est-ce qui va me donner à moi? Celui qui donne n'est jamais oublié. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais vous savez, pour pouvoir donner comme ça, constamment, régulièrement, pas seulement des coups, comme ça, tout d'un coup, il y a un marathon, ou pas un téléthon, et puis tout d'un coup, je me sens généreux. Ça, c'est des coups sur coups comme ça, mais entre-temps, c'est l'égoïsme de partout. Non, non. Ce qui caractérise le disciple de Christ, c'est que c'est en lui tout le temps. Peu importe quand on le prend, on l'appelle à 10h du soir, bien sûr. On l'appelle 5h du matin, il est aussi généreux. Vous l'attrapez en fin de semaine, début de semaine, vous l'attrapez n'importe où, c'est la même personne. Ça veut dire que c'est le tempérament de la personne, c'est son caractère, c'est ce que Dieu a fait en lui. Avec Jésus, on peut y aller. Vous savez, vous pouvez prier à Dieu n'importe quel moment, le même accueil, il est toujours disponible. Sommes-nous des disciples de Christ? C'est ça que veut dire disciple. C'est pas seulement est-ce que j'ai les croyances de Christ? Ou est-ce que je me suis fait baptiser? Est-ce que je vis la vie de Christ? Et pour que ce soit vrai d'une église, Il faut que ce soit vrai de tous ceux qui la composent. Et si l'Église peut donner, c'est parce que tous dans l'Église veulent donner. Et lorsque tous donnent, la charge n'est pas trop grande. La réalité dans une Église, et c'est caractéristique, mais en général, c'est 10-15% des gens qui font tout le travail, les autres, ils sont là en promenade. Je remercie le Seigneur. Au mois de septembre, on a fait une réunion, on a rassemblé tous les gens qui sont inclus. Pour nous, dans l'Église, le programme de jeûne, c'est depuis la crèche, donc naissance, jusqu'à lycée ou 18 ans. Ça, on appelle ça le programme des jeunes. Eh bien, lorsqu'on a rassemblé tout le personnel, tous les gens qui sont là-dedans, celui qui enseigne, comme celui qui assiste, comme celui qui sert le gâteau, comme celui qui... Tout, ça, c'est une équipe. Eh bien, on a trouvé 50 personnes dans l'Église. C'est pour ça que ça travaille. Ça se passe pas tout seul. C'est parce que chacun fait ce qu'il peut. Et ça, c'est seulement le programme des enfants. Il y a d'autres activités. Vous savez, ce qui va faire vivre l'Église, c'est lorsque chacun donne ce qu'il peut. Peu importe ce que chacun peut donner, c'est le tout que Dieu utilise et qu'il multiplie. Et il fait son œuvre. Je reviens. Le problème de l'Église d'Éphèse, quand il nous parle, et la prochaine fois on en parlera, de Apocalypse chapitre 2, il dit, tu fais beaucoup de bonnes choses. Ton programme est bon, tes activités sont bonnes, tes réactions sont bonnes, tu fais tout bien. C'est le problème, tu as perdu ton premier amour. Et si tu perds l'amour, tout le reste va mourir. Entretenons cet amour que Dieu nous a fait connaître. Et c'est pas en regardant le frère d'à côté qu'on va apprendre l'amour. C'est les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. C'est lui qui le donne. Et c'est pas en regardant ailleurs. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, écoutez, Jésus vous invite à la croix. Il dit, viens à la croix. C'est là où j'ai un message pour toi. C'est à la croix qu'il me chuchote à l'oreille, dit, tu sais combien je t'ai aimé? Eh ben, j'ai pris ta place sur la croix là. Tu sais ces épines que j'ai portées sur la tête, on le faisait en moquerie. Mais tu sais d'où viennent ces épines? C'est parce que le péché est entré dans le monde. Les épines existent depuis que le péché est entré dans le monde. Eh ben, ces épines, c'est moi qui les ai portées pour toi. Pour que toi, tu n'aies plus à les porter. Et que tu puisses aller dans la gloire. Soulagé. Il dit, viens me voir. Je te dis combien je t'aime. Et je te donne tout ce que j'ai pour toi. Puis ensuite, toi, va aimer comme je t'ai aimé. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Ah, les hommes, ils ont fait des progrès de science et maintenant on a des moyens de communication, on a des moyens de transport, on a des moyens de destruction, on a fait des choses qui n'existaient pas il y a 2000 ans. Mais on n'a fait aucun progrès pour ce qui est de l'amour du prochain. Et Père Céleste, nous ne sommes pas responsables pour ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes responsables pour ce qui se passe ici au milieu de nous. Seigneur, tu as tant aimé que tu as donné. Jésus, tu as tant aimé que tu as donné. Ton serviteur Paul a tellement aimé qu'il a donné. Seigneur, qu'il puisse être dit que l'église de Saint-Denis est une église qui donne aussi, qui aime, qui donne. Et c'est à chacun de nous d'assumer notre responsabilité et de garder précieusement ce que tu nous as confié. Ce que tu as créé ici, dans cette partie de la banlieue. Une belle chose, préserve-la, mais c'est donne-nous de la préserver. Nous te prions, Père, de nous aider chacun. Et pendant ces quelques moments de silence, eh bien, Seigneur, que chacun voit en quoi il a été négligent, ce qu'il pourrait faire, c'est comment il pourrait corriger une attitude déjà, une perspective autre, afin de trouver le bonheur de donner, plutôt que de vivre la déception du recevoir. C'est au nom et à la gloire de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous te prions. Amen.